Bonjour et bienvenue sur Bac FM 106.1, dans l'émission consacrée aux anciens élèves du lycée Raoul Follereau. Aujourd'hui, c'est Émilien Cabiran qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour Émilien, comment vas-tu ?
Bonjour Mathieu. Écoute, merci, je vais très bien. Je poursuis mon cursus et là, je suis à Paris et tout va pour le mieux.
Très bien, commençons. Alors, quel fut ton choix de filière et pourquoi ?
Alors, au lycée, j'avais opté pour la filière ES, économique et sociale, principalement parce que j'étais intéressé par les sciences sociales, notamment fait par la SES, donc la matière sciences économiques et sociales. J'étais assez intéressé par l'actualité à cette époque-là et je trouvais que c'était une matière qui me permettrait de comprendre un peu ces enjeux. Et de manière générale, j'étais réellement intéressé par tout ce qui touchait à l'économie et à la sociologie.
Comment fonctionnait l'atelier Sciences Po du lycée et comment t'a-t-il aidé ?
Alors, il fonctionnait de beaucoup de manières différentes. Déjà, il y avait un accompagnement individuel. Donc j'avais un tuteur qui était mon prof d'histoire, M. Jacquin, et qui m'a accompagné tout au long de l'année pour réaliser les travaux qui étaient exigés. Et donc, chaque semaine, on se réunissait, on échangeait sur ce que j'avais à faire. Il me conseillait, il relisait mes travaux une fois que je les avais terminés. Donc ça, c'est le premier aspect de l'atelier qui est plutôt individuel. Le deuxième aspect, c'était plutôt l'organisation d'activités. Donc, par exemple, on a eu des sorties. En première, j'ai assisté à une séance fictive de l'Assemblée au Parlement européen où chacun incarnait un député et on devait échanger. Et puis en terminale, on avait l'organisation d'émissions de radio qu'on devait faire à deux. Donc moi, j'ai animé deux émissions. Une première qui s'intitulait La Fabrique citoyenne, où on recevait un invité qu'on devait interviewer. Donc j'ai pu échanger avec Bernard Stiegler, le philosophe, avec un historien qui s'appelle Jean Garrigue. Et la deuxième émission que j'ai également animée s'appelait Le quart d'heure socio-éco. Et là, en un quart d'heure, avec une autre personne, on devait présenter un thème d'actualité de manière assez générale. Donc c'est, comme je disais, le deuxième aspect de la thèse qui est plus collectif. Et troisièmement, en terminale, on avait également des cours qui étaient dispensés tous les vendredis par M. Crescenzo, qui était alors le directeur de l'atelier. C'était des cours de droit constitutionnel qui étaient destinés à nous faire voir un petit peu ce qu'on pourrait étudier à Sciences Po, et par là même un peu à nous préparer à l'oral d'admission. Donc voilà, c'était vraiment assez multiple et c'était un accompagnement très riche.
Et c'est l'atelier qui t'a donné envie d'aller à Sciences Po Paris ou c'est autre chose ?
C'est en partie l'atelier parce que je connaissais très peu Sciences Po en réalité avant d'entrer au lycée et c'est lors des portes ouvertes que j'ai découvert quasiment en fait l'existence de Sciences Po parce que lors des portes ouvertes il y a Madame Guégan qui tenait une sorte d'atelier dédié à présenter l'atelier Sciences Po justement. Donc c'est là que j'ai appris l'existence de cet atelier. J'ai fait ma seconde à Jules Renard. Puis quand j'ai fait ma filière ES à Raoul Follereau, j'ai intégré l'atelier. Donc l'atelier premièrement a grandement contribué parce que ça m'a fait connaître Sciences Po. Et ensuite, le fait de m'investir dans l'atelier m'a convaincu dans mon choix de vouloir faire Sciences Po. Donc, il a grandement concouru au cursus que j'ai choisi, oui.
Qu'est-ce que le bicursus Humanité littéraire et Sciences sociales avec la Sorbonne et pourquoi ce choix plutôt qu'un cursus classique ?
Alors, le bicursus me permet de faire une double licence. Donc, d'un côté, une licence à Sciences Po en sciences sociales, qui est le cursus traditionnel que font les étudiants à Sciences Po, et de l'autre, une licence à la Sorbonne, à Paris 4. Moi, c'est une licence de philosophie, mais il y a également des licences d'histoire ou de lettres modernes et classiques qui sont proposées. Donc, pourquoi j'ai pas choisi un cursus classique ? En réalité, c'est parce que j'avais envie de compléter le cursus de Sciences Po par un aspect un petit peu plus littéraire, on va dire, plus philosophique, qui est pas totalement absent de Sciences Po, mais qui est malgré tout assez peu prépondérant. Et donc, je voulais compléter le cursus plus centré sur la sociologie, l'économie, le droit de Sciences Po, également l'histoire, compléter ce cursus avec quelque chose de plus littéraire et philosophique. Et c'est ça que m'apporte la Sorbonne, enfin, en fait. Qui fait que j'ai un emploi du temps qui est légèrement allégé, tant côté Sciences Po que Sorbonne, et qui me permet de suivre les deux licences en même temps. Donc, y a des jours qui sont consacrés aux cours à Sciences Po et d'autres qui sont consacrés aux cours à la Sorbonne. Et donc, j'ai des travaux à réaliser des deux côtés et des partiels en fin de semestre à la Sorbonne et à Sciences Po. Ça me permet d'obtenir deux licences en trois ans.
D'accord. Et comment se sont passés tes euros d'admission puisque tu as dû en passer deux ?
Tout à fait. J'avais passé 2 euros d'admission parce que j'avais postulé par deux voies. La première voie, c'était la voie convention d'éducation prioritaire. parce que le lycée est conventionné par Sciences Po dans le cadre d'un plan de discrimination positive. Et donc, j'ai intégré Sciences Po par cette voie-là. Mais j'ai également tenté Sciences Po par le concours ouvert à tout le monde, pas seulement au lycée conventionné. Et j'avais également été admis par cette voie-là. Alors, comment se sont passés mes oraux d'admission? Ils se sont plutôt bien passés parce que j'avais eu un jury assez bienveillant. Et les questions consistaient principalement en des questions sur ma motivation. Pourquoi je voulais postuler à un double cursus? Pourquoi je voulais Sciences Po plutôt qu'autre chose? Et donc, ces questions-là se sont déclinées en des questions un peu plus spécifiques, dont le but, c'était de montrer au jury que j'avais absolument besoin de Sciences Po pour parvenir à ce que je voulais. Je devais réellement montrer que je connaissais l'institution, que l'ensemble des programmes et des opportunités qu'elle offrait, en réalité, je les avais déjà envisagées et que c'était tout à fait ce qui me correspondait. Donc, par exemple, à Sciences Po, il y a une troisième année qui se fait à l'étranger. On m'a demandé où j'envisageais de faire cette année et pourquoi. Il y a également un parcours civique. On m'a demandé ce que j'envisageais de faire et pourquoi, comment ça s'insérait dans mon projet. J'avais également eu d'autres questions qui étaient moins liées à ma motivation, qui portaient plutôt sur l'actualité. C'était revenu lors des 2 euros. Et j'avais également eu lors des 2 euros une image à commenter. Je ne sais plus si ça se fait maintenant, mais le jury nous soumet une image qui est parue dans la presse assez récemment. Et il faut la commenter en quelques minutes, en fait, mais de manière très spontanée, parce qu'on a juste quelques secondes pour prendre connaissance de l'image. Et il faut réagir à l'image et au thème d'actualité, en fait, auquel elle fait référence. Donc, lors du premier oral, j'avais eu une photo qui était en lien avec le réchauffement climatique aux États-Unis. Ça m'a permis de parler justement de toute la question de la prise en compte de l'environnement dans les politiques. Et lors du second oral, j'avais une photo c'est une caricature de Plantu dans Le Monde sur l'affaire Carlos Ghosn, parce qu'à ce moment-là, il y avait tous les événements où Carlos Ghosn avait été emprisonné au Japon, puis il avait fui au Liban, tout ça. Les oraux se déroulent de manière assez différente, en fait, selon les candidats, mais les miens, en tout cas, étaient assez bienveillants. Les questions portaient sur des choses que j'avais envisagées lors de la préparation que l'atelier m'avait offert. Donc, dans l'ensemble, ça s'est réellement bien passé. Mais il y a d'autres personnes qui ont des oraux beaucoup plus compliqués, avec des jurys qui sont plus pointilleux, qui posent un petit peu des questions pièges ou des questions qui visent à déstabiliser les candidats pour voir justement ce qu'ils valent. Moi, j'ai pas eu affaire à ça. Et c'était finalement bien parce que j'étais assez stressé. Donc, je sais pas comment ça serait passé si jamais j'avais été confronté à ça.
D'accord. Le Covid qui est en cours actuellement, est-ce que ça complique tes cours?
Oui, ça complique plutôt grandement mes cours parce que j'ai en réalité très peu de cours en présentiel. On n'est pas soumis, nous, au même régime que les prépas, qui, elles, ont intégralement cours. Nous, on a 20% de cours seulement en présentiel, ce qui fait que du côté Sciences Po, par exemple, j'ai un cours en présentiel toutes les 2 semaines et un autre cours toutes les semaines en présentiel, mais auquel je peux pas assister parce qu'il se trouve, en fait, le créneau horaire de ce cours se trouve entre 2 cours qui, eux, se font à distance, donc je peux pas suivre sur le campus, ce qui fait que c'est compliqué de suivre un cours chez moi, puis dans les 10 minutes qui suivent, d'aller à Sciences Po pour suivre le cours en présentiel, puis pour revenir chez moi suivre l'autre cours. Donc, je peux même pas assister aux quelques cours qui me sont proposés en présentiel. La Sorbonne, il n'y a rien du tout qui a repris en présentiel. Donc, de ce point de vue-là, évidemment que ça complique mes cours, parce que c'est quand même moins agréable de suivre à distance, par Zoom. La concentration est quand même moindre parce que on a tout un environnement qui nous distrait et puis d'autre part ça restreint quand même pas mal les interactions avec le prof et avec les autres élèves. Il faut savoir quand même que les cours à Sciences Po sont grandement fondés sur justement les échanges, sur le débat et via Zoom ça reste quand même plus compliqué. Donc ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, ça complique mes cours dans le sens où les travaux demandés sont plus exigeants, je dirais. Parce que vu que le contrôle continu peut plus se faire en présentiel, ils nous envoient des travaux par mail à faire. en un certain laps de temps, mais étant donné que on n'a pas une heure et demie de cours, comme c'était le cas l'année dernière, par exemple, en présentiel, ils nous donnent un sujet entier à faire, et ils nous disent, vous avez 4 heures. Du coup, les travaux sont plus exigeants, et ensuite, généralement, le temps qu'ils nous laissent est plus élevé, en fait, que le temps, par exemple, d'un partiel, c'est-à-dire qu'ils vont nous donner un sujet de DM que, initialement, on aurait dû faire en 4 heures, mais là, étant donné qu'ils prennent en compte les situations de chacun, on aura 24 heures pour le faire. Et moi, le fait d'avoir davantage de temps comme ça, ça fait que je me consacre beaucoup plus au travail et que quelque chose que je devrais rendre en 4 heures, en réalité, je vais passer toute ma matinée et toute mon après-midi parce que je sais que je dispose de plus de temps. Donc, en fait, ça implique que je consacre plus de temps à mes travaux et ça complique aussi, du coup, mon cursus. Parce que l'un des grands avantages de Sciences Po par rapport au prépa, c'est qu'on a quand même un rythme qui est moindre et qu'on a un emploi du temps qui est beaucoup moins chargé, qui permet de s'engager dans des assos et de faire autre chose à côté. Et donc là, avec des travaux à distance, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir moins de temps, alors qu'en réalité, j'ai pas plus de cours. Simplement, les travaux prennent une forme différente, et c'est une question d'organisation aussi. Peut-être que je m'y prends pas totalement bien, mais en tout cas, à titre personnel, j'ai l'impression d'avoir plus de travail qu'avant.
Et les études et la vie à Sciences Po sont-elles semblables à l'idée que tu t'en faisais?
Plus ou moins. Évidemment que j'idéalisais beaucoup quand même les études à Sciences Po, et je me suis rendu compte, par exemple, que on pouvait s'ennuyer dans un cours à Sciences Po. Alors qu'en terminale, j'étais persuadé que tout cours qui était dispensé à Sciences Po était forcément d'un grand intérêt et qu'il avait complètement capté mon attention et que j'aurais jamais envie de dormir pendant un cours à Sciences Po. En réalité, c'est pas forcément le cas. Il y a des cours qui, comme tout au long de la scolarité, sont moins intéressants que d'autres. Mais dans l'ensemble, ça correspond assez bien à l'image que je m'en étais faite. Et je suis satisfait dans l'ensemble de ce que j'étudie. Donc, oui, de manière générale, je dirais que ça correspond assez bien.
La vie parisienne est-elle difficile?
Je dirais pas particulièrement, parce que moi, j'étais très content de partir à Paris. Quand j'étais en terminale, j'attendais en réalité que ça. J'avais concentré mes vœux à Paris parce que c'était vraiment la destination où je voulais étudier. Donc, j'étais très content parce que c'est un bouillonnement culturel et puis c'est une vie assez dynamique. Bon, c'est plus compliqué, je dirais, en temps de Covid, où là, justement, tous ces aspects que je viens d'énumérer, la culture, le dynamisme, la possibilité de sortir à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit, bah, ça existe beaucoup moins. Et donc, on a une vie qui est beaucoup plus dans le lieu où on habite et qui, lui, est du coup très restreint, parce que mon appartement fait 13 mètres carrés, donc c'est plus compliqué en temps de Covid, je dirais. Mais je reste quand même satisfait d'être à Paris. Et paradoxalement, le fait aussi d'aller étudier à Paris, ça m'a fait voir les avantages d'une ville comme Nevers, parce que je suis désormais super satisfait quand je rentre. Et je vois en fait des aspects positifs de la vie à Nevers et dans la Nièvre que je ne voyais pas forcément en terminale, où là j'avais qu'une envie, c'était de partir.
Tu nous as parlé tout à l'heure du parcours civique. Qu'est-ce que c'est ?
Le parcours civique, c'est une obligation de scolarité à Sciences Po. C'est-à-dire qu'on est obligé, durant les deux premières années de la licence à Sciences Po, de réaliser un stage ou un engagement bénévole dans une association, et on doit se consacrer en fait à l'intérêt général pendant un certain nombre d'heures qui est requis par Sciences Po. Alors moi, mon parcours civique, je le fais dans un centre social en banlieue parisienne, et plus spécifiquement, je le fais dans une permanence au sein de ce centre social qui est dédiée à l'aide à l'accès aux droits. Donc ça prend deux formes, mon engagement. Premièrement, donc dans cette permanence, on accueille des personnes qui ont des requêtes individuelles, par exemple pour remplir tel ou tel document. Ça peut être, je sais pas, des demandes de logements sociaux ou des documents pour la CAF. Donc on les aide à remplir. Donc là, c'est véritablement des tâches d'écrivain public. On aide également à réaliser les démarches qui sont dématérialisées, donc qui sont sur les ordinateurs. Donc là, ça porte beaucoup sur les demandes de titres de séjour, parce qu'il y a beaucoup de populations immigrées en banlieue parisienne. Donc ça, c'est le premier aspect de mon stage civique. Le second aspect, il est plus collectif, où là, j'anime des ateliers qui visent à développer l'autonomie des personnes dans la réalisation de leurs démarches administratives. Et donc, tous les mardis, pendant 2 heures, chacune a un ordinateur en face d'elle, et je leur distribue des tâches, et ensuite, je les accompagne dans la réalisation de ces tâches. En réalité, ce sont des personnes âgées, donc c'est des tâches assez peu compliquées. Ça va être typiquement se servir d'une adresse mail, naviguer sur un moteur de recherche, donc des choses comme ça. Mais en fait, ce sont des préalables à la réalisation des démarches. Donc là, le but, c'est de permettre à ces personnes qu'à terme, elles soient capables de réaliser leur démarche par elles-mêmes, alors qu'actuellement, elles viennent au centre et elles ont besoin d'un accompagnement personnel pour les réaliser. Donc ça, on doit le faire sur la première année et la seconde année. On a une possibilité de changer de lieu de stage entre la première et la deuxième année. Moi, j'ai poursuivi dans la même structure parce que j'avais envie d'avoir une continuité. Mais ça, c'est libre à chacun de choisir ce qui lui semble le mieux. Et alors moi, du coup, j'ai décrit mon expérience, mais en réalité, on peut s'engager dans des structures associatives extrêmement différentes. J'ai des amis qui sont dans des centres qui, par exemple, visent à promouvoir la défense de l'environnement et qui vont animer des ateliers auprès des plus jeunes pour les sensibiliser à cette question-là. D'autres qui vont dans des centres pénitentiaires pour réaliser, par exemple, une fonction d'écrivain public et donc là, rédiger le courrier des détenus, par exemple. D'autres encore qui travaillent dans des associations qui aident justement les migrants en leur distribuant de la nourriture. Ça peut être également faire des maraudes dans Paris justement pour aider les sans-abri. Donc ça peut prendre en réalité des formes très diverses. Et le but de ce projet, qui a été mis en place assez récemment en réalité par Sciences Po, c'est d'avoir un pied dans la réalité quand même et de poursuivre en parallèle un enseignement qui est dans l'ensemble assez abstrait et justement un engagement de terrain qui est destiné à promouvoir l'intérêt général.
Que prévois-tu à la suite de tes études ? Souhaites-tu continuer à étudier ?
Après ma double licence, oui, je souhaite continuer à étudier. Je vais poursuivre jusqu'en master, au moins, je pense. Je ne sais pas encore si je souhaite faire un doctorat ou non. Mais donc, évidemment que je ne vais pas m'arrêter l'année prochaine, une fois que j'aurai terminé ma licence. Et quant au master que j'envisage, pour l'instant, je pense faire un master de recherche, parce que je suis de plus en plus intéressé par ce domaine-là. Je ne sais pas encore si, en revanche, si je vais le réaliser à Sciences Po ou dans une autre école. Parce que les masters de recherche à Sciences Po, il y en a plusieurs, mais ils sont, si vous voulez, répartis en disciplines. Il y a un master de recherche en sociologie, un autre en histoire, un autre en économie, un autre en droit, par exemple. Alors que dans d'autres écoles, et notamment le HESS, donc l'école des hautes études en sciences sociales, ils sont plus pluridisciplinaires, je dirais, et ils vont être plus thématiques. Ça va être par exemple un master en études politiques, et là on va aborder ce thème à travers différentes matières. Tandis qu'à Sciences Po, c'est un master de sociologie, on va étudier exclusivement la sociologie. Et donc c'est ça qui me fait envisager un master en dehors des murs de Sciences Po. Donc là, il faut que j'y réfléchisse davantage.
Et donc tu te vois où dans 5 à 10 ans ?
5 à 10 ans, si je désire toujours être chercheur à ce moment-là, je me vois pourquoi pas dans un centre de recherche, tout en donnant en parallèle des cours au lycée ou dans une faculté. À l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose qui me conviendrait réellement. Mais la question d'enseigner auprès de lycéens ou d'étudiants en faculté, c'est encore une question que je me pose, parce que je trouve qu'il y a des avantages dans les deux cas. Donc, faut y réfléchir.
D'accord, c'est un très beau parcours. Aurais-tu des conseils pour ceux qui vont se diriger vers Sciences Po ?
Je dirais, premièrement, d'avoir confiance en soi. Enfin, un conseil qui est assez général, pour le coup, mais qui est très important, parce que je sais que moi, en terminale, j'avais dans l'ensemble assez peu confiance en moi. Et le fait de postuler à une école parisienne qui est assez renommée, ça me faisait vraiment peur. Il y avait une forme, pas d'autocensure, parce que dans tous les cas, je postulais. Donc je ne me censurais pas complètement, mais j'avais réellement une sorte de sentiment d'infériorité par rapport à des étudiants qui venaient de lycées parisiens et qui sont peut-être plus cotés. Donc c'est assez important d'avoir confiance en soi, et parce que le lycée, dans tous les cas, met à disposition des structures comme l'atelier qui permettent d'avoir le bagage requis pour entrer à Sciences Po. Donc vous êtes accompagné, et ça c'est quand même un point super important. Donc d'avoir confiance en soi, et ensuite de s'intéresser aux thèmes justement qui sont enseignés à Sciences Po, donc de bien suivre l'actualité et d'être curieux de manière générale, d'avoir une curiosité qui est éveillée et qui est affectée par les choses qui se passent. C'est un peu ça Sciences Po, c'est vouloir comprendre les mécanismes des événements politiques, économiques et avoir un attrait pour ces choses-là et désirer les comprendre et avec l'envie aussi de les changer, parce que ça va de pair quand même. On a parlé très rapidement du parcours civique, donc de l'engagement associatif. Je suis également membre en fait d'une asso qui s'appelle des territoires aux grandes écoles, dont l'antenne dans la Nièvre s'appelle de la Nièvre aux grandes écoles, et qui vise justement à favoriser l'accès à l'enseignement supérieur et à des écoles de type Sciences Po. et donc qui met en lien des étudiants de l'enseignement supérieur avec des lycéens qui, eux, justement, sont en première ou en terminale, qui vont faire leurs vœux et qui doivent préparer les concours ou leur lettre de motivation sur Parcoursup, donc pour leur permettre d'avoir un premier aperçu des écoles ou des projets qu'ils envisagent, de pouvoir discuter avec des étudiants et de pouvoir aussi recevoir une aide, parce qu'il y a un tutorat qui est mis en place pour aider. Donc moi, je suis tuteur d'une élève à Alain Colas qui postule à Sciences Po cette année. Et donc, c'est pas un conseil à proprement parler, mais tout ça pour dire, ça s'inscrit dans la lignée de mon propos sur le fait d'avoir confiance en soi, c'est qu'il y a vraiment des structures qui sont mises en place pour aider et pour permettre d'accéder à des choses qui, à première vue, en fait, semblent assez peu inaccessibles, mais qui, en réalité, le sont vraiment. Enfin, il faut vraiment pas s'auto-censurer, et le but de l'asso, par exemple, de la Nièvre Grandes Écoles, c'est vraiment ça, lutter contre l'auto-censure et démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur. Donc voilà, je voulais juste profiter de ce moment de discussion pour faire un petit peu la promotion de l'association qui se développe depuis 2 ans maintenant, presque, et que je trouve être un puissant levier d'accès à l'enseignement supérieur.
Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à Emilien pour sa participation et merci de votre écoute. À bientôt sur BAC FM 106.1.